Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Bonjour, 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 bonjour tout le monde. Pourquoi quatre fois bonjour? Parce qu'on a besoin de se réchauffer quatre fois plus que la journée d'hier parce qu'il fait froid aujourd'hui. Ouais, c'est une bonne réponse, hein, Mathieu? Oui, aïe. De l'autre côté de l'aquarium, comment ça va?
Je vais très bien.
Ah, avec une belle voix rauque, t'es pas arrivé, j'espère. Non, c'est parce qu'il fait...
Ah, j'ai un mélange, j'ai un cocktail de tout.
Ah oui?
C'est original, moi.
Un cocktail de tout. Bon, ça commence bien ce lundi matin, mais on a besoin de rigoler. Puis là, j'entends, avant d'aller à la météo, parce que je vous ai déjà dit qu'il faisait froid, mais avant d'aller là, j'entends quelqu'un rigoler au bout, du fil. C'est Daniel.
Ben oui, j'ai le rire facile, j'aime ça. Puis je vous connais tous, je vous vois pas tout le temps. Mais je vous connais. Donc je sais que. Alors, comme Mathieu me fait rire, avec sa belle voix rauque en plus ce matin. Et qu'est-ce qui est intéressant ce matin comme sujet? C'est. Je vous propose. Vous savez, on va au théâtre. Oui. Et puis, c'est Mario Girard qui a été lui-même surpris que son patron se demande que les gens. C'est quoi la relation qu'ont les gens avec le siège qu'ils choisissent au théâtre? Oui. Et ça a été la chronique de Mario Girard le 22 novembre dernier. Alors, c'est une belle occasion de réfléchir. À notre fauteuil au théâtre ou au cinéma.
Ah, puis j'ai la réponse à la question que tu as posée à tout le monde. Alors, moi, je vais pouvoir te répondre tout à l'heure. Fait qu'on va faire ça. À Louis de Bernis, les nouvelles insolites aujourd'hui.
Oui, on va parler un peu de jardinage, si on veut, en Grande-Bretagne, d'un homme avec un projet un peu fou qui veut enterrer dans son jardin un Boeing pour en faire un bunker anti-atomique, voilà, pour se protéger de la prochaine
guerre. Excusez-moi, je ne peux pas m'empêcher de rire.
Oui, parce que sa femme, paraît-il, est très compréhensive. C'est ce qu'il dit dans
l'article. Chérie, mon amour, je vais mettre un Boeing dans le jardin, puis peut-être qu'il va faire des petits Cessna, tu sais, qui vont pousser. Bon, voilà, oui.
Ça, c'est pour la chronique, donc jardinage, et on parlera aussi de tourisme. L'intelligence artificielle ne dit pas tout le temps la vérité, il faut le rappeler régulièrement. Eh bien, une agence de voyage en fait les frais. Il proposait un voyage avec, paraît-il, des sources chaudes, des choses incroyables à voir. Une fois sur place, les gens ont été un peu déçus.
Ah, et voilà, il ne faut pas se fier aux apparences et surtout pas à l'intelligence artificielle. Mm-hmm. Moi, je peux vous dire que je vais parler de la nouvelle série télé, une émission où on parle des personnes en situation de handicap, mais d'une façon très intéressante. C'est un talk show avec Dominique Sillon et Michel Cordé. C'est sur Ami Télé. On va parler de ça tout à l'heure. On va parler de la semaine du 9 avec Alexandra Templier. Et on va aussi parler de pianoforte. C'est un instrument de musique. Alors, on va en parler avec Olivier Godet, directeur artistique de la salle Bourgie, ici à Montréal, parce qu'il y a un concert là, de Schubert et on va utiliser cet instrument. Bon, je vous ai dit que je faisais froid. Je vais attendre pour leur dire. Selon les personnes très expertes en météo, ça serait probablement la dernière vague de froid que nous allons connaître cette année, parce que depuis hier, pour Environnement Canada, c'est le printemps. Qu'on appelle météorologique. Oui. Alors, on verra ce que ça va donner. Mais en fait, le vrai printemps, c'est dans 18 jours. Ça s'en vient. Ne perdez pas espoir. Mais quand même, aujourd'hui, c'est du temps glacial pour le sud du Québec. Les températures vont osciller entre moins 7 et moins 9, mais avec le refroidissement éolien, bien, on parle de par endroit, ça peut aller jusqu'à moins 33, moins 26 ici à Montréal, parce qu'il y a des vents, oui, effectivement. Dans l'est du Québec aussi, hein, c'est la même chose. Les vents sont violents, poudrerie en vigueur. Dans le nord, Lac-Saint-Jean, Abitibi, eh bien, le froid aussi. Ben, en fait, je pourrais juste vous dire qu'on va faire froid partout. Il y a même des endroits qu'on parle de ressenti à moins 40 dans le nord. Ben, on n'est pas là, mais on peut envoyer Mathieu, il aime ça, lui. Fait que, un petit voyage dans le nord.
Ah, quand vous voulez. Ah, je m'en vais, j'y vais.
En Ontario aussi, le ciel est dégagé. Bon, les maximums sont toujours autour de moins 9, refroidissement éolien toute la journée. Même chose pour le sud de l'Ontario, le nord de l'Ontario. Mon Dieu, je pourrais vous dire la même chose dans... Ben non, au niveau, dans les provinces atlantiques, on est tout plus autour du point de congélation, donc c'est un peu mieux dans les provinces atlantiques. Et puis, il y a de la neige en Alberta. Et puis, il y a de la... Ben, il y a de la froid arctique aussi, Saskatchewan et Manitoba. Puis, il y a un endroit qui fait plus beau qu'ici, évidemment. C'est à Vancouver, hein, la côte ouest, fait toujours plus beau. Et, ben, on s'en va en musique.
Rien à l'horizon, sinon l'intention... De tout recommencer, le feu dans la maison, les pieds dans la neige. Un 14 février, pris entre l'ivresse et la peur. On répète toujours les mêmes erreurs. Il faut courir à sa perte. Parfaite. Des mêmes erreurs. Vois-tu les grandes
mêmes erreurs. Il faut courir à sa perte. Un nouveau jour qui se lève, rien ne sera plus jamais pareil. Et si on tournait les talons pour avancer à reculons, rien ne serait plus jamais pareil, plus jamais pareil.
C'était Élie Dupuis, sa chanson « Mêmes erreurs ».
C'est le temps de la revue de presse. Puis évidemment, ben, c'est la situation en Iran qui retient l'attention d'à peu près tout, en fait, de tous les journaux, de tous les médias ce matin. Alors, l'équilibre au Moyen-Orient vacille, alors que les frappes israélo-états-uniennes sur l'Iran font craindre un embrasement régional. Selon une analyse publiée dans la presse, deux scénarios se dessinent. Une guerre prolongée visant un changement de régime à Téhéran ou une victoire rapide de Donald Trump laissant un pouvoir iranien affaibli et contesté. L'enjeu est aussi économique. Le détroit d'Hormuz, où circule 20 % du pétrole mondial, pourrait être fermé par l'Iran, en dernier recours, au risque de s'aliéner son client chinois. Sur le terrain, la stratégie de Téhéran consistant à cibler les monarchies du Golfe semble se retourner contre elle, poussant ces pays à s'aligner davantage avec Washington. Malgré leurs liens avec l'Iran, la Russie et la Chine devraient rester de simples observatrices faute de volonté ou de capacité militaire pour intervenir dans ce chaos. Je vous rappelle que le détroit d'Hormuz est un passage maritime étroit de 39 à 96 km de large séparant le golfe Persique du golfe d'Oman. Et l'Iran possède la quatrième plus grande réserve prouvée de pétrole au monde et la deuxième plus grande réserve de gaz naturel. Toujours en Iran, Donald Trump a confirmé que les forces états-uniennes ont frappé plus de 1000 cibles en Iran, incluant le quartier général des gardiens de la Révolution. Cette offensive, menée conjointement avec Israël, a causé la mort du guide suprême, l'ayatollah Khamenei, d'une décapitation du régime, selon l'armée israélienne. En riposte, Téhéran a multiplié les tirs de missiles vers Israël et les pays du Golfe, incluant notamment Dubaï et Doha. Alors que Washington promet des opérations sur 4 semaines, la tension s'exporte au Liban et en Irak. Si une partie de la population iranienne a manifesté sa joie devant l'affaiblissement du pouvoir, la communauté internationale craint désormais un embrasement régional incontrôlable. Je rappelle que l'ayatollah Ali Khamenei occupait la fonction de guide de la révolution, le poste le plus élevé de la République islamique depuis 1989. Et puis le bilan des hostilités déclenchées donc samedi dernier est particulièrement lourd et évolue rapidement selon les sources. En compilant les données disponibles ce lundi 2 mars, on dénombre les pertes suivantes. Alors, en Iran, selon le Croissant Rouge iranien, l'organisation rapporte officiellement 555 morts à travers 131 villes touchées. Des sources indépendantes et ONG, bien, on parle plutôt de 1000 morts, notamment celles qui sont reliées par Libna News, incluant 435 militaires et 436 civils. Les personnalités marquantes, donc, outre l'ayatollah Ali Khamenei, celles de plusieurs hauts gradés des gardiens de la Révolution et l'ancien président Mahmoud Ahmadinejad ont été confirmés, donc leur mort a été confirmée. Une frappe sur une école de filles à Minab, dans le sud du pays, aurait fait entre 85 et 165 morts, selon les autorités locales. Et puis en Israël, c'est 10 morts et au moins 9 personnes qui ont été blessées dimanche. Pardon, je reprends. Au moins 10 morts, dont 9 qui ont été tués hier par un missile iranien. À Beth Shemesh, on compte également plus de 120 blessés. Et puis aux États-Unis, on est rendu à 4 militaires qui ont été tués et puis 5 blessés graves. Les Émirats arabes unis, on rapporte 3 morts et 58 blessés. blessés suite au tir de missiles iraniens. Au Liban, les frappes israéliennes ce matin sur les bastions du Hezbollah auraient fait 31 morts et près de 150 blessés. Au Pakistan, les manifestations violentes liées au conflit ont causé la mort de 17 à 23 personnes, selon les sources. Et puis une alerte aux voyageurs canadiens au Moyen-Orient. Le gouvernement fédéral demande aux citoyens d'éviter tout voyage dans plusieurs pays du Moyen-Orient. Cette mise à jour musclée des directives d'Ottawa concerne l'Iran, l'Irak, le Qatar, le Bahreïn, les Émirats arabes unis et le Koweït. En raison de l'intensification des activités limitaires, le risque des missiles ou de drones frappant des cibles civiles est jugé très élevé, alors qu'une grande partie de l'espace aérien régional, d'ailleurs, demeure fermé. La ministre des Affaires étrangères, Anita Anand, a tenu à rappeler que la capacité du Canada à secourir ses ressortissants en Iran est extrêmement limitée, faute d'ambassade sur place. Alors, Ottawa exhorte les Canadiens déjà présents dans la région à s'inscrire au service de recensement des citoyens à l'étranger et se tenir prêt à se mettre à l'abri sans préavis. Et puis, Mark Carney est en Inde, et on parle de commerce et d'ingérence. En visite officielle à New Delhi, le premier ministre Mark Carney tente de doubler les exportations canadiennes hors des États-Unis, mais le dossier de l'ingérence étrangère le rattrape. Alors qu'il signait ce matin un contrat majeur de 2,6 milliards de dollars pour l'uranium de la Saskatchewan, de nouvelles révélations lient un employé du consulat indien au meurtre du militant Sikh Hardeep Singh Nijjar, survenu en Colombie-Britannique. Malgré ces tensions et l'inquiétude de la communauté Sikh au pays, Ottawa mise sur un partenariat stratégique axé sur l'énergie et l'éducation. L'objectif est ambitieux, porter les échanges commerciaux à 70 milliards de dollars d'ici 2030. Mark Carney doit s'adresser aux médias cet après-midi pour clarifier comment il compte réconcilier ou concilier les intérêts économiques et la protection de la souveraineté canadienne. Et puis, dans les paractualités, j'ai encore quelques minutes. Alors, c'est l'angle mort des services sociaux au Québec. C'est dans la presse du 28 février. Un cri du cœur publié dans un texte d'opinion dans la presse concernant l'itinérance chez les personnes ayant une déficience intellectuelle. Dans le texte signé par Amélie Durand-Loup, directrice générale de la Société québécoise de la déficience intellectuelle, et par Catherine Laporte, avocate, bien dans ce texte, on rappelle qu'aucun programme majeur de lutte contre l'itinérance n'intègre les besoins spécifiques des personnes en situation de handicap. Pourtant, selon la Commission canadienne des droits de la personne, une personne en situation de handicap est 4 fois plus susceptible de se retrouver à la rue. L'article dénonce un véritable échec collectif. On y suit le parcours de Mélissa et Jérémy, deux jeunes adultes ballottés d'un service à l'autre avant d'être abandonnés par le système. Pour les autrices, il est urgent d'agir. Il faut financer des hébergements adaptés et assurer un suivi intensif pour les jeunes qui quittent la DPJ, qui se retrouvent donc dans des situations comme ça. Car contrairement à ce que laissent entendre certains propos ministériels récents, la rue n'est jamais un choix pour les citoyens vulnérables. C'est le signe d'un filet social qui s'étiole. Et puis, à une semaine des Jeux paralympiques de Milan-Cortina, le malaise grandit. Le Comité paralympique canadien a réitéré son opposition ferme à la réintégration de la Russie et du Bélarus. Malgré un vote du Comité international en faveur de leur retour, le Canada martèle que les conditions de sport propres et justes ne sont pas toujours réunies, citant les violations répétées en matière de dopage et de non-respect de la trêve olympique. Plusieurs pays, dont l'Ukraine et la Pologne, ont déjà annoncé qu'ils boycotteraient la cérémonie d'ouverture de vendredi. De leur côté, les athlètes états-uniens et canadiens brilleront par leur absence, non pas par boycottage officiel, mais pour éviter un déplacement épuisant à la veille des premières compétitions.
Je suis ordinaire, j'ai rien de fou, mais quand tu me regardes, tout d'un coup je deviens génial. T'as ce pouvoir de me faire sentir extraordinaire et un peu fou, le plus drôle de la terre. Je me sens plus cool quand tu me regardes. T'as ce pouvoir de me faire sentir extraordinaire. Avec toi je me sens extraordinaire. Tu me fais sentir plus drôle, plus grand, plus moi-même. Comme si j'avais tout l'or du monde dans la tête. C'est toi qui fais que j'ai toujours confiance en moi-même. Comme si j'avais enfin trouvé ce qui manquait. Je suis ordinaire, j'ai rien de fou, mais quand tu me regardes, tout d'un coup je deviens génial. T'as ce pouvoir de me faire sentir extraordinaire. Avec toi je me sens extraordinaire. Tu me fais sentir plus drôle, plus grand, plus moi-même. Extraordinaire.
Et quand tu dis que je suis important, j'aimerais te dire que je comprends. J'aimerais te dire que je suis différent. Mais en vérité, ce que je ressens, c'est que j'ai beau être un peu mieux, avoir le sourire que je veux, si je te prête mes yeux, tu verrais pas le merveilleux. J'ai rien de fou, oh non. J'suis pas le plus cool non plus. Mais j'ai ce pouvoir de te faire sentir, te faire sentir extraordinaire. T'es tellement belle et tu le sais à peine. J'me sens plus cool quand tu me regardes. T'as ce pouvoir de me faire sentir extraordinaire. Avec toi je me sens extraordinaire. Tu me fais sentir plus drôle, plus grand, plus moins même extraordinaire.
Extraordinaire, une chanson de Freds.
Ah, puis là, je vais faire un beau compliment à Daniel. Nous allons donc aller vers une personne extraordinaire.
Oh mon Dieu, Seigneur, vous êtes bien aimable.
Ah non, mais Denis Martin, Seigneur, ça c'est entre intimes seulement.
Mais non, mais Fred, il écrit des belles chansons.
Ah, il est génial, hein? Oui,
ah,
j'aime beaucoup.
Oui, vraiment. Puis pour son âge, c'est un jeune homme.
Oui.
Et il a une belle maturité, je ne sais pas. En tout cas, c'est un garçon, il a du talent, c'est ça, du talent. Il faut croire, hein?
Ben oui.
Ben, parlant de talent, on aime ça aller les voir en spectacle, ces gens-là. Et puis, il y a des habitudes de spectacle. Alors, on a des habitudes aussi de siège. Hein? Il y a des gens qui aiment avoir le même siège à chaque fois. Il y a des gens qui sont très stratégique lorsqu'il se cherche un siège. Et ça a été le sujet d'une chronique de Mario Girard en novembre dernier. Donc, puis en même temps, ben, c'est comme il l'a remarqué aussi, ça donne une idée du spectateur et aussi des êtres humains dans ce genre de stratégie-là, parce que ça cache pas quelque chose. Là. Je veux dire, il y a des gens qui sont claustrophobes, il y a des gens qui aiment ça être sécurisés. Alors, je commence.
Oui.
Alors, tout d'abord, peu importe la salle ou le type de spectacle, il existe plusieurs comportements, c'est ce qu'il dit. Le premier, c'est l'extrême fidélité que vous les abonnez à leur siège, hein, entre guillemets, là, il est à eux. Donc, après des années, justement, ils obtiennent enfin une section ou une place qui convient à leurs besoins, puis ils veulent surtout pas s'en séparer. Pour d'autres personnes, ben, le rituel du théâtre doit être le même chaque fois. C'est ce qu'explique Martine Poirier du Rideau Vert. C'est-à-dire que les personnes, elles vont manger au même endroit, le même resto. Et ces personnes-là arrivent à la même heure et viennent avec les mêmes amis. Donc, pour eux, retrouver le même siège, ça les sécurise et ça fait partie vraiment d'un rituel de sortie. C'est pas rare aussi dans les grands théâtres d'avoir des abonnés de longue date qui sont très attachés à leur siège, à leur fauteuil. J'ai ma belle-sœur qui est comme ça. C'est des abonnés de 20 ou 30 ans, la même place. Puis on dit qu'il y en a beaucoup. C'est ce que constate Frédéric Brault du TNM. Une fois qu'ils obtiennent le siège de leur rêve, ils le conservent d'année en année.
C'est moi ça.
Ah oui,
je suis abonné, puis là, on a vraiment atteint des bons sièges, et je m'assure qu'on, parce qu'on est un groupe, là, je m'assure qu'on renouvelle les abonnements pour ne pas perdre nos sièges.
Ben, je trouve que c'est bien, puis en même temps, ben, pour le théâtre, ça assure une fidélité, une loyauté, donc c'est ça, je pense que c'est important aussi. Puis là, on mentionne aussi que, ben, entre autres, chez Duceppe, qui a été fondé en 1973, ils possèdent d'ailleurs, eux autres aussi, un très grand nombre de fidèles. Mais là, vous allez vous poser la question, justement, quels sont et où sont les meilleurs sièges? C'est donc, si on aborde, parce qu'en jasant, Mario Girard, il a découvert que les préférences des spectateurs, tout de suite, c'est les sièges qui sont situés au bout des rangées. En général, ce sont d'ailleurs les sièges, les places qui partent en premier.
Ah bon?
Oui, parce que les bords d'allée sont très recherchés. C'est idéal, surtout quand quelqu'un est grand,
ouais.
Et devant soi. Aussi, on veut dégager ses jambes. C'est un peu comme un lecteur le mentionnait, disait, c'est comme prendre un billet d'avion, là, puis c'est dans l'allée, le siège de l'allée. Donc, tu peux aller aux toilettes facilement, sortir de l'avion plus rapidement, etc.
Ouais. Donc, mais au théâtre, moi, j'avoue, là, puis je suis quelqu'un, là, je fais 6 pieds 2, là. Moi, j'aime pas l'essai d'aller au théâtre. Bien, je préfère avoir les genoux un petit peu pris, non? Oui. Mais avoir une place où mon point de vue est plus centré.
Ben, il y a ça. Ben, ça, je vais en venir.
On va y arriver. OK.
Ouais. Puis, d'ailleurs, le fait de choisir un siège sur le bord de l'allée, ben, c'est le même phénomène qu'on remarque aussi chez Duceppe. Parce que, il y en a aussi, c'est drôle à dire, mais ça, on parle de l'être humain, c'est que pour certaines gens, traverser des rangées peut les indisposer, puis ça indispose les claustrophobes. Puis, là, on remarqué chez Duceppe, même, d'ailleurs, chez Duceppe, les rangées sont très longues, hein, ouais. Parce que la façon que la salle est constituée et faite. Donc ces sièges-là sont très prisés. Il y a certains spectateurs, sans doute pour obtenir une forme d'intimité, vont rechercher l'isolement. Il y a des gens qui aiment s'asseoir près de la porte, tant au parterre qu'au balcon. Si jamais ils sont en retard, bon, ils veulent pouvoir entrer quand même. Ils veulent aussi partir les premiers pour ne pas être pris justement dans la foule ou aller aux toilettes sans déranger personne. Donc, parce que les sorties de théâtre, hein, on se ramasse, on est un paquet de gens. Donc, ces gens-là, ils aiment ça avoir un petit peu d'intimité puis se sentir isolés. Parce que cette recherche d'isolement, entre autres, a pris de nouvelles tournures, et ça plus avec la pandémie. Chez Duceppe, d'ailleurs, ils ont remarqué qu'il y a des couples, écoutez bien ça, qui achètent les deux sièges situés de chaque côté d'eux pour s'assurer de n'avoir personne durant le spectacle à côté d'eux.
Ah bon?
Ah ben oui, ils créent leur propre distanciation sociale. Donc, c'est vous dire à quel point que ça en dit un peu sur les gens. La section qui est très recherchée, c'est évidemment le premier tiers de la salle au centre. Justement, vous parlez du centre. Pour plusieurs spectateurs, il s'agit d'ailleurs du nirvana. Ça l'est quand il est question de théâtre ou de musique populaire. Mais pour un concert de musique classique, les choses vont être différentes parce que les mélomanes vont choisir leur siège en fonction du concert, soit qu'il est symphonique, soliste ou un ciné-concert. C'est qu'on n'est pas surpris de savoir que si le programme inclut un soliste, les sièges impairs à gauche sont très recherchés. Et ce qui est étrange d'ailleurs, et qu'il y a plusieurs personnes qui conservent cette habitude pour tous les concerts. On dit aussi que les places situées côté jardin sont très populaires. C'est ce qu'on mentionne avec l'Orchestre symphonique de Montréal. La première rangée, elle est pour certains spectateurs l'ultime objectif à atteindre. Martine Poirier parle avec tendresse de cette spectatrice qui occupe depuis de nombreuses années, et ça au rideau vert, les sièges A14 et A16. Et d'ailleurs, il y a un soir, il y a eu un pépin, elle a dû occuper les sièges A16 et A18. Et elle a écrit au rideau vert leur disant qu'elle avait passé une mauvaise soirée. Elle a exigé de revoir le spectacle. Mmh. Et comme les sièges 14 et 16 n'étaient pas libres, on lui a proposé la rangée H, où se trouvent les meilleurs sièges. Elle a dit non, il n'y en est pas question. Ça m'a pris des années pour me rendre au siège A14, A16. Il n'y en est pas question. Je ne changerai pas d'idée. On parle aussi que quand on est fidèle à ces sièges, on tisse des relations avec des gens depuis des années. Donc, on retrouve les mêmes personnes parce qu'on choisit les mêmes représentations du calendrier, soit, en exemple, le deuxième samedi en matinée, puis on retrouve les mêmes voisins. Ben là, il y a des liens qui se tissent, l'entourage est agréable, ils n'auront pas de mauvaises surprises, ils se sentent sécures, ils aiment retrouver des gens qui ont la même écoute et le même décorum qu'eux. Le même phénomène se présente chez Duceppe, il y a des amitiés qui sont nées assurément de cette façon, puis à contrario, il arrive que des abonnés changent leur billet car ils n'apprécient pas la présence de certains voisins. Ça peut être parce que la personne est farfelue ou encore qu'elle dérange, regarde son téléphone ou chuchote à la personne qui est à côté d'elle, déballe un bonbon ou sent trop le parfum.
Ah, ça, là, c'est vraiment tannant, tout ce que tu viens de dire, là.
Oui,
et
hein,
le parfum, moi, je suis allergique à ça, je t'avoue, là, qu'il y a des gens qui devraient peut-être pas trop en mettre, s'il vous plaît.
De pas se parfumer, de sentir la nature, là. Hein?
Ouais, des fois, l'odeur de soubrette est peut-être moins pire que celle qui me donne des allergies, oui.
Oui, absolument. Il y a les ouvreurs, hein, les gens qui nous amènent à notre siège et qui nous accueillent avec le contenu du spectacle. Eux, ils remarquent que les changements qui surviennent dans la vie de spectateurs a un impact sur leurs habitudes de spectateurs. Et d'ailleurs, on a vu, on mentionne l'histoire d'un abonné qui, pendant quelques saisons, a continué d'acheter la place qu'il était normalement réservée à sa femme décédée. Et c'était sa façon de vivre son deuil, et les gens autour de lui savaient que le siège vide représentait sa femme. D'ailleurs, après la pandémie, il y a des employés du Rideau Vert qui ont découvert que plusieurs abonnés avaient perdu leur co-abonné, hein, des décès. La pandémie a fait des ravages. Certains préfèrent alors, à ce moment-là, changer de siège pour briser l'habitude, effacer le souvenir. Il y a aussi un phénomène contraire où des abonnés arrivés à l'âge de 50 ans ajoutent des places d'abonnement pour leurs enfants. C'est un effet de transmission qui s'opère, comme mentionne Frédéric Brault du TNM. Cette grande fidélité au fauteuil fait en sorte que les spectateurs qui achètent leur billet à la dernière minute doivent faire preuve aussi d'ingéniosité pour trouver de bonnes places. Certains surveillent de près l'annonce des supplémentaires pour se trouver de bonnes places. D'autres, plus futés, savent que des théâtres tiennent des places, comme celle du vomitoire chez Duceppe. Connaissez-vous ça, ce mot-là, vomitoire? Ah, ben oui. Le vomitoire, c'est un large passage qui permet un accès facile et qui permet de faire entrer et sortir un grand nombre de spectateurs. Ah. Alors, vous fouillerez dans Google, c'est intéressant. Ça vient de pas d'aujourd'hui, ça vient des grands stades, etc., à l'époque. Et puis, vous allez voir, c'est vomitoire. J'ai fait le sursaut comme vous. La relation que développent certains spectateurs avec un fauteuil a un avantage pour les gestionnaires des théâtres aussi. Hein. On reçoit parfois des courriels qui nous disent que tel ou tel siège est brisé. C'est pas bête, ça, finalement. Je trouve que c'est une bonne... c'est intéressant. Alors, ça permet de réparer le tout. Et puis là, on mentionne à la fin de l'article une dame qui est fidèle au Rideau Vert. Elle a 98 ans. Elle fréquente le Rideau Vert depuis son installation rue Saint-Denis en 1960. C'est une madame... Madeleine Lanouette Bernardi. Elle se souvient d'être allée voir un film de Tino Rossi à l'époque, alors qu'elle n'avait pas l'âge pour entrer. Elle était allée seule en plus, donc une femme audacieuse. Elle est donc une doyenne incontestable des abonnés du Rideau Vert. Elle a gardé un bon souvenir de la création de la Sagouine. Elle a adoré Roger Planchon dans Le Chant du Cygne et autres histoires d'Anton Tchekhov en 2001, et elle a aussi beaucoup aimé Albertine en 5 temps. Donc, voyez-vous, il y a des fidèles peut-être au TNM, au Rideau Vert et dans d'autres théâtres, c'est la même chose. Et pour les auditeurs, c'est possible aussi, en cherchant dans Google, les théâtres, il y a des théâtres qui sont adaptés pour des personnes malentendantes ou qui portent des appareils, hein, qui ont un peu de difficulté.
Puis on va devoir arrêter là, il nous reste 15 secondes, mais tout ça est super intéressant. Donc, on va être mieux avisé quand on va choisir nos sièges de spectacle bientôt. Merci beaucoup. Et on se retrouve après la pause.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Bien trop de fois, mais j'en ai assez, je veux briller à travers la nuit, car
La version française de la chanson Golden s'était brillée par une myriade d'artistes.
Oui, ouais, plein d'artistes et on les félicite parce qu'ils sont très bons. Ben, parlant de très bons, on va faire des choses très bonnes. On va parler de l'insolite avec Louis de Bernice. Alors là, je vais présenter puis je vais me faire un plaisir d'essayer de ne pas rire. En Angleterre, il enterre un Boeing dans son jardin pour en faire un bunker anti-atomique. Et il dit « Ma femme est très compréhensive ». Ben, je trouve que c'est une cause de divorce, mais en tout cas, allons-y.
Visiblement, le mariage tient bien pour l'instant. Effectivement, c'est à Ashbourne, en Grande-Bretagne, que ça se passe. Et le jardin de Dave Billings, c'est son nom, est traversé par beaucoup de choses, par des galeries, et les taupes ne sont pas en cause dans ce cas-là. Cet ingénieur britannique de 44 ans est en train de se construire une seconde maison sous terre, en fait, pour parer à une éventuelle menace nucléaire. Ce réseau souterrain sera bientôt complété par la carlingue tout simplement d'un Boeing 737 que le quadragénaire compte enfouir à 4 mètres au-dessous du sol. Ce chantier improbable est suivi notamment par près de 500 000 abonnés sur YouTube, il a une chaîne et sur son compte TikTok également. Cette communauté qu'il a génère suffisamment de revenus pour permettre donc au quadragénaire de financer l'ensemble des travaux estimé à un peu plus de 400 000 dollars canadiens, l'équivalent, rapportent plusieurs médias. Ce projet est aussi préventif que ludique. Dave Billings, pour le préciser, il n'est pas obsédé par la peur d'une troisième guerre mondiale, comme ça peut arriver aux États-Unis, où il y a vraiment
une survivaliste.
Exactement, oui. Il y a une communauté. Lui, il n'écarte pas totalement le scénario non plus, puis l'actualité récente nous montre que ça peut parfois exploser sans qu'on s'y attende trop. Lui, en tout cas, les bunkers qu'il a construits sous son jardin visent à mettre ses proches à l'abri en cas d'alerte, c'est certain. Mais l'objectif est aussi, et peut-être même avant tout, de faire rêver son fils de 7 ans, Oliver. Parce qu'en effet, ses cachettes en sous-sol sont un terrain de jeu idéal pour le petit garçon, qui est par ailleurs passionné d'aviation. Il se trouve que son père est tombé récemment sur une annonce insolite. Une carcasse de Boeing 737 mise en vente sur Facebook. On trouve de tout, décidément, sur Facebook. Quand je lui ai montré la photo, dit-il pour la première fois, il m'a demandé pourquoi je ne l'avais pas acheté, se souvient Dave. Depuis, l'avion a été acheté, et pour pas si cher que ça, il s'agit de la carcasse, pas d'un avion fonctionnel, l'équivalent à peu près de 6-7 000 dollars canadiens.
Pour un avion qui vole pas haut.
Ouais, c'est ça. Et cet avion a rejoint le jardin familial pour le plus grand plaisir du jeune Oliver, et au désespoir, peut-être, de Beth, la maman. Quand elle l'a vu pour la première fois, elle m'a demandé pourquoi j'achetais un tas de ferraille, s'amuse le père de famille. Le Boeing est livré, mais le plus dur reste à venir. Il reste tout simplement à aménager un intérieur aussi confortable que possible, à découper aussi une partie du fuselage pour le relier au réseau de bunkers déjà en place qu'il a déjà creusé dans son jardin. Enfoui à 4 mètres sous terre, chapeauté par une dalle de béton pour un plus grand renforcement, Dave estime que son Boeing anti-atomique pourrait offrir un abri efficace contre d'éventuelles retombées radioactives. Reste une faille de taille et un projet quand même assez important pour Dave. Pour le moment, ces bunkers ne sont pas électriquement autonomes. Ils sont reliés au réseau principal d'électricité et donc vulnérables à une éventuelle coupure. C'est l'un des points que je dois régler pour ce projet, dit-il, et il le reconnaît, l'ingénieur. Beth, elle, semble s'être fait à l'idée, semble s'être fait une raison. Elle est très compréhensive, confirme-t-il, et pour l'instant, la petite famille, c'est le bonheur, visiblement, l'unité familiale tient.
Ah, écoute, on va souffler sur les chandelles de l'avion, et puis l'avion va s'envoler, en fumée.
On parle aussi peut-être de tourisme.
Oui, allons-y.
Oui, et d'intelligence artificielle. Je dois reconnaître que j'aime bien ces nouvelles qui nous rappellent que l'intelligence artificielle, il faut s'en méfier.
À tout sauf d'intelligent parfois.
Exactement. ça se passe du côté de l'Australie. C'est tout sauf une grande nouvelle. On le sait, l'intelligence artificielle, on en entend parler tous les jours. Et elle prend le relais souvent dans de nombreux domaines, pour le meilleur et pour le pire. Désormais, nombre de contenus qu'on voit sur Facebook, les réseaux sociaux, et on peut arriver à les repérer quand même assez facilement encore, sont rédigés en une poignée de secondes par des assistants virtuels aussi puissants que faillibles parfois. Illustration avec cette mésaventure en Australie vécue par des touristes en séjour en Tasmanie. Retirés dans le nord-est de l'île, les habitants du petit village de Wellborough ont été surpris de voir un jour débarquer un convoi de 24 voitures, très exactement. Ces automobilistes tenaient absolument à faire le détour pour profiter d'un site qu'un article de l'agence de voyage Tasmanian Tours présentait comme l'une des 7 meilleures expériences de sources thermales en Tasmanie pour 2026. Ces sources chaudes semblaient incontournables, la photo avec cette rivière fumante faisait envie, illustrait l'article qui était on ne peut plus convaincant, et voilà, ils ont tous débarqué presque avec leur maillot de bain. Visiblement, ce petit paradis caché se méritait. Arrivé au point de rendez-vous, le groupe n'a pas trouvé la trace de ces sources, pourtant emblématiques selon l'article. Ils ont donc demandé à une commerçante du village de bien vouloir leur montrer le chemin. Celle-ci n'a pu s'empêcher d'éclater de rire et déclare aujourd'hui dans la presse « Je leur ai dit, si jamais vous les trouvez, vous revenez me le dire et je vous paye des bières à tous pendant toute la nuit. » Ils ne sont jamais revenus, s'est-elle amusée. Ces eaux chaudes étaient complètement introuvables pour une bonne raison. Elles n'ont tout simplement jamais existé. La photo et les lignes dithyrambiques de l'article de l'agence de voyage avaient été générées par une intelligence artificielle en pleine hallucination. Le patron de Tasmanian Tours, le site internet, reconnaît une erreur dans le processus de validation des articles en ligne. Il explique sous-traiter une partie de ses contenus à un prestataire qui a recours à l'IA générative. Mmh. On essaye, dit-il, de rivaliser avec les grands acteurs, les grandes plateformes. Pour ça, il faut sans cesse renouveler ses contenus. Mais là, en l'occurrence, l'IA a complètement foiré, a-t-il concédé.
Et l'IA, j'utilise l'intelligence artificielle pour préparer les émissions, mais je vous le dis tout de suite, il faut tout revérifier. Mmh. Parce que il y a des choses qui sortent, mais c'était pas dans ce que je t'ai donné comme matériel. Bon, maintenant, là, on réussit à faire mieux les choses, là, mais je pense qu'il va toujours avoir besoin de l'humain. Parce que, oui, l'intelligence artificielle, parfois, je trouve qu'elle a tout sauf l'intelligence. Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Qui tourne pas rond, caché quelque part au fond des bois et laisser passer les saisons. On va faire comme la première fois dans le sous-sol de chez nos parents, quand j'ai promis que j'allais être là pour traverser les saisons.
Eh bien voilà, nous on va parler de tarification des soins à domicile au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça vient de Radio-Canada du 27 février. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une réorganisation des services de santé force maintenant des personnes vulnérables à sortir leur portefeuille. C'est le cas de Martine Lafont, une septuagénaire de Chicoutimi, vivant avec les séquelles de la polio, qui a appris qu'elle devra désormais débourser 160 $ par mois pour maintenir ses 18 heures d'aide à domicile. Pour cette retraitée, ses services pour l'épicerie ou le ménage ne sont pas un luxe, mais une nécessité absolue pour préserver son autonomie. Le CIUS régional confirme que plusieurs usagers en situation de handicap sont maintenant mis à contribution financièrement, le montant étant calculé par la RAMQ selon leurs revenus. Pour les organismes de défense des droits, cette décision est dramatique. Elle s'attaque directement au budget d'épicerie des plus précaires et va à l'encontre des politiques d'inclusion prônées au Québec, par le Québec depuis 40 ans. Alors, le programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique de la Régie de l'assurance maladie du Québec permet une réduction de tarifs, mais le montant résiduel est à la charge de l'usager et ça varie selon les revenus et la composition du ménage. Et puis dans la presse du 1er mars, derrière la porte de la chambre à coucher, il y a des réalités dont on parle peu. Dans une chronique de la presse, Thomas, un étudiant de 21 ans, vivant avec une paralysie cérébrale, brise le tabou sur la sexualité et le handicap. Son message est simple. Les personnes en situation de handicap ne sont pas des êtres sexués à protéger, mais des adultes avec les mêmes désirs d'intimité et d'amour que les autres. Thomas confie la difficulté de passer outre le regard des autres qui les perçoivent souvent comme des gens dépendants. Il soulève aussi un débat de société important, celui de l'assistance sexuelle, une pratique légale dans certains pays d'Europe qui permet de répondre aux besoins de humains fondamentaux trop souvent ignorés par le système.
Entre! Hey, salut, Dom!
Hey, salut, Michel! Hey, merci de m'avoir invité chez toi pour qu'on puisse repasser les entrevues pour l'émission. On va être plus tranquille ici.
Ouais. Hey, avant qu'on commence, tu me rendrais-tu un petit service?
Ben oui, quoi?
Penses-tu que tu pourrais prendre mon linge qui est dans laveuse puis le mettre dans la sécheuse? Hein? Tu sais, ma sécheuse est comme en haut puis c'est un peu compliqué avec mon handicap.
Ah ouais?
Ouais.
Ah ben oui, ça me fait plaisir.
Ah, merci, t'es bien.
On sera pas là.
Merci, t'es bien fin.
OK, c'est fait.
Hey, pendant que t'es là,
oui.
Tu penses que tu peux aussi faire ma vaisselle? J'ai juste 3-4 tasses, là. Juste que j'ai pas de lave-vaisselle, puis, tu sais, l'évier, il est quand même plus haut, puis c'est compliqué, là, avec mon handicap.
Ouais, OK, je vais faire ça.
Vraiment smart. Okay. Merci.
Merci. OK, c'est fait.
Hey, t'es rendu là. Tu penses que tu pourrais sortir mes vidanges un coup parti?
Parti?
Ouais.
C'est un beau mot, ça.
Hein?
C'est ça que je vais faire. Je vais partir. Moi, je vais aller tout de suite au studio. Comme ça, moi, être tranquille pour étudier les entrevues. Hein? OK, bye.
Hey, ben, de un, la sortie de l'autre bord, puis de deux, c'est toi mon lift.
OK, bye.
Peux-tu venir me... Attends! Ah, je suis pogné, là. Il y a le pouf! Je peux pas sortir de même. Ah, reviens! Production Pixcom et Ami Télé.
alors, ça c'est... j'ai un petit retour parce que j'ai un micro qui... C'est bon, on est bon. Alors, on a un petit... J'ai un retour de son, je ne sais pas... Il est là. Bon. Je ne sais pas pourquoi. J'ai un retour de son. Voilà. C'est bon? Non, j'ai un retour de son, Mathieu, je ne sais pas pourquoi, là. Bon, on va continuer, je vais aller sans écouteurs. Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est l'ouverture de l'épisode 1 d'Espace réservé, une émission de la chaîne Ami Télé. Et nous recevons les co-animateurs Dominique Sillon et Michel Cordé. Michel Cordé, donc, qui essaie de profiter pas mal trop de son co-animateur, j'ai l'impression. Michel, c'était tellement drôle cette entrée-là. Bonjour tout le monde. Bienvenue à l'émission. Bienvenue à Canal M. Alors, moi, on vous connaît comme comédien dans la série Vestiaire. Et là, on vous retrouve dans un tout nouveau rôle à la barre du magazine Espace réservé sur les ondes d'Ami Télé. Rendez-vous hebdomadaire tourné devant public à la Maison Alcan et qui promet des discussions plutôt franches sur l'inclusion. Alors, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Vous êtes amis dans la vraie vie, hein, c'est ça? Il y a des complices à l'écran?
Oui, on est devenu par la force des choses parce qu'on a commencé à travailler ensemble sur Vestiaire il y a je pense qu'on s'est rencontré il y a 4 ans.
Ouais.
Lors de l'audition. Lors de l'audition de Michel pour Vestiaire. Puis Ensuite, on a commencé à jouer ensemble. Fait que ça a comme cliqué. Il y a comme un lien naturel qui s'est fait entre nous deux. Très vite, ça a cliqué. On a les mêmes hobbies, les mêmes passions. Tous les deux, on tripe sur le cinéma. Très vite, il y a un lien d'amitié qui s'est créé autre que celui de partenaire de travail.
Mais ça
On
vous
s'est
permet
rendu
d'avoir un
compte qu'on aime
certain
beaucoup
humour. Oui,
travailler
vas-y,
ensemble
Michel.
aussi.
Oui,
Non,
Charles.
j'allais juste dire, on s'est rendu compte qu'on aime beaucoup travailler ensemble aussi. Donc,
Ouais.
on s'est dit pourquoi se limiter à Vestiaire et peut-être pas pousser ça ailleurs.
Ben, moi,
Ouais.
j'ai beaucoup aimé dans cette intro qu'on vient de faire jouer l'humour. Et l'humour, c'est pas facile à faire hein, parce que quand on a une personne en situation de handicap, puis que, tu sais, mais je pense que le fait que vous êtes des amis dans la vie, ça passe bien. C'est très drôle, cette séquence-là. Puis je pense que ça donne un peu l'espèce d'ambiance ou le leitmotiv là, de l'émission. Vous allez rire quand même un peu.
Oh
Oui.
oui.
Ben, en fait, c'est qu'on savait que les thèmes qu'on allait aborder à l'émission, c'était des thèmes qui sont quand même très sérieux, sur des enjeux qui sont très sérieux pour les personnes que ça concerne. Donc, nous, on voulait ajouter un petit côté léger à ça. Donc, dans chaque émission, on ouvre toujours avec un sketch qui présente un peu sous forme humoristique le thème dont il va être question pendant l'heure à suivre au cours des discussions.
Alors, est-ce
Ouais.
pas... Oui, Michel. Pardon, Dominique, oui.
Oh non, ça va. J'ai juste comme pied à ce
Ah,
que Michel disait.
c'est bon. Alors, je veux juste dire aux gens qu'on a une entrevue en visioconférence. Alors, des fois, ça coupe et on pense que la personne veut parler. Espace réservé se veut un magazine axé sur les solutions plutôt que sur le simple constat de handicap. Ben, je pense que j'irai avec toi, Michel. Peux-tu me donner un exemple d'une piste de solution qui t'a particulièrement marqué lors des premiers enregistrements, peut-être même sur la situation que vous écrivez dans le premier épisode, là?
Sur la situation qu'on décrit dans le premier épisode. Le premier épisode, en fait, était question de logement
Oui.
accessible. Puis c'était très intéressant parce que on avait un technologue en architecture qui était là sur le plateau avec qui on a eu une conversation très intéressante sur le fait que si les entrepreneurs pensaient à l'accessibilité d'un édifice au moment de la construction, les coûts seraient infiniment moindres que d'adapter le lieu par la suite. Donc, on parle vraiment là d'une différence de 500 $ ou moins sur
Ouais.
le coût de construction d'un logement comparé à des milliers de dollars de subventions pour le rendre accessible par la suite. Donc, c'est une des solutions qui a été discutée, c'est-à-dire de sensibiliser les gens qui sont à la base de ces projets-là, de leur parler, de leur dire, de réfléchir à ça dès le départ pour éviter des problèmes par la suite, puis de peut-être aussi revoir le système de pointage que les entrepreneurs ont pour déterminer quel type de subvention, quel type de mesures financières ils vont avoir pour la construction de leur logement.
Dominique, autour de la table, donc, il y a des experts, des décideurs, des personnes directement concernées. Est-ce que le fait de confronter ces différents points de vue change la dynamique de la discussion par rapport à ce qu'on voit habituellement à la télévision? Parce qu'habituellement, la télévision, tu sais, c'est une tête parlante, puis bon, on décide qu'est-ce qui est bon. Mais là, parfois, ben, comme je le disais tantôt, le début de cet épisode, on voit très bien que Michel souligne les problèmes qu'il a avec l'appartement, de pouvoir sortir, de pouvoir faire des choses.
Ouais.
Et donc, le fait d'avoir tout plein de personnes autour de la table, ça change la perspective et la compréhension et peut-être même la solution qu'on peut trouver.
Ben oui, tout à fait. Le but vraiment d'espace réservé, c'est ça que j'aime de ce projet-là, c'est de mettre des gens autour de la table qui peuvent discuter entre eux, mais qui peuvent aussi poser des questions. Parce que souvent, le problème, c'est que on a des questions, on aimerait que des gens y répondent, mais on n'a pas accès à ces gens-là. C'est-à-dire qu'à espace réservé, ces gens-là viennent, s'assoient avec nous et on discute. Et il faut faire attention. Nous autres, le but, ce n'est pas de confronter les gens ou de les mettre dans le coin. Puis le but, c'est
C'est
vraiment de
pas un hot seat
discuter puis
qu'on appelle. Oui.
d'essayer de comprendre pourquoi ça se fait comme ça, pourquoi on ne le fait pas autrement. Puis souvent, ben, on se rend compte que on se disait, ben, pourquoi ils ne font pas ça de même, ils devraient faire ça de même. Puis à force d'écouter la personne, tu fais comme, ah ben oui, mais c'est pas possible de le faire autrement. On comprend. Fait que des fois, c'est de changer les choses pas mal plus en amont que ce qu'on essaye de faire là. Souvent, mais ces gens-là viennent l'expliquer, ils viennent discuter avec des personnes qui ont des questions à poser. C'est vraiment, je te dirais, la qualité première de cette émission-là, c'est qu'on laisse les gens discuter entre eux.
La première saison couvre 7 thèmes majeurs allant du logement, donc on vient d'en parler, à la technologie, en passant par l'emploi. Parmi ces sujets, je pose la question à vous deux, là, lequel a semblé générer les échanges les plus vifs et les plus révélateurs? La question qui tue.
Il y a un sujet qui nous a marqué toute l'équipe, je pense, puis on est tous un peu arrivés à la même conclusion, c'était l'épisode sur le maintien à domicile. On savait que c'était un sujet qui allait être compliqué, difficile, mais aussi très universel parce que ça touche tout le monde. Ça touche aussi les parents, ça touche les grands-parents, ça touche le vieillissement de la population. Donc, on va tous passer par là ou connaître quelqu'un qui va passer par là éventuellement. Puis, on se rend compte que, en fait, les mesures varient beaucoup d'une région à l'autre présentement. Puis, c'est ça qui est compliqué, en fait. C'est pas simplement de rester chez soi, mais de rester chez soi à l'endroit où on veut rester au Québec aussi. Dans sa région. Donc, ouais. Ça fait des conversations très intéressantes.
Et ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est qu'on apprend que maintenir quelqu'un à domicile, ça coûte moins cher pour le gouvernement que d'héberger une personne en CHSLD, en maison de vie. Souvent, on a le réflexe de dire ben pourquoi on met pas tous les gens à leur domicile et on les maintient pas tous à domicile? Là aussi, il y a des défis, tu sais, mais ça, c'est très confrontant parce que, comme Michel l'a dit, un jour, c'est pas juste être une personne en situation de handicap, c'est un jour, on va tous être vieux et on va avoir besoin de services pour être capable de rester à la maison, tu sais.
Oui, quand on se retrouve avec un problème de mobilité, puis ça risque d'arriver à peu près à tout le monde en vieillissant, c'est le cas de le dire. Justement, on parle d'accessibilité universelle on dit souvent que c'est un concept abstrait. Mais en quoi les capsules que vous présentez à l'émission peuvent-elles rendre ces enjeux-là plus tangibles pour le grand public, que ce soit une personne en situation de handicap ou non?
Vas-y.
Dominique,
je parle, mettons, de ma capsule à moi, c'est peut-être de voir ce qui se fait ailleurs. Nous autres, moi, c'est ça la capsule, c'est de qu'est-ce qui se fait ailleurs de bien, de peut-être en parler puis de peut-être l'exposer ici. Est-ce que c'est possible de ce qui se fait ailleurs, d'être capable de l'amener ici pour pouvoir l'utiliser? Puis je pense que quand on regarde ailleurs, on dit souvent le gazon n'est pas plus vert chez le voisin, mais souvent quand on regarde ce qui se fait ailleurs, tu te rends compte qu'il y a une efficacité souvent qui est beaucoup plus grande que ce que des fois on pourrait faire ici. Mm-hmm.
Oui. Puis je pense qu'il y avait aussi une volonté qui est ressortie dans les discussions au fil du temps de se dire pourquoi est-ce qu'on serait toujours obligé d'aller piger dans ce qui se fait ailleurs, puis pourquoi ici au Québec, on ne serait pas capable de nous-mêmes devenir un exemple de ce qui se fait de bien pour le reste de la planète. Donc, on sait qu'on a du retard à rattraper, mais est-ce qu'on peut aussi envisager de devenir... De devenir des gens de qui on va s'inspirer sur certaines mesures.
En tout cas, cette émission-là est certainement novatrice. Je ne pense pas que c'est un concept qui existe ailleurs. C'est le premier pas vers ça, qu'on va donner l'exemple ailleurs au monde. On va devoir s'arrêter ici. Je vais le rappeler que le magazine donc, qui s'appelle Espace réservé est produit par Pixcom. C'est disponible sur Ami Télé et également disponible sur l'application Ami Plus. Je vais remercier donc Dominique Sion et Michel Cordé, les co-animateurs de cette émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci.
Merci. Après la pause, nous allons parler de la semaine du 9 avec Alexandra Templier et on va aussi parler de Pianoforte et Schubert à la salle Bourget avec le directeur qui s'appelle Olivier Godin. Et moi, je vous rappelle que dans l'est du pays, là, c'est le retour du froid, mais ça devrait être la dernière fois que ça arrive là, parce qu'on est au début du mois de mars. Là, besoin ça se corrige un petit peu. Puis ailleurs, c'est le point de congélation, puis il fait un petit peu plus chaud sur la côte ouest. À tout de suite.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot. On se réveilla tous les jours, next to one another, it's cool, la vie est courte. Mais printemps, prends ton souffle. On est chanceux d'être si heureux, juste toi et moi, tous les deux, on boucle des shows. We're on the road, let's go. We're singing all the time, we just need a little water, nanana. On se voit sourire dans le miroir, toutes les choses qu'on s'est faites à croire. D'un fond, faut juste savoir, we're lucky to be here now.
Chanson Une seconde de Maïra.
Et nous, on reçoit donc Alexandra Templier, qui est une artiste dont la voix et la réflexion jettent des ponts entre les disciplines. Oh, ben vous devinez donc que c'est une artiste pluridisciplinaire. Elle est avec nous pour discuter de la semaine du 9 et de sa création Chant 2, Le murmure du vivant. C'est une œuvre qui explore notre rapport à la biologie et à l'existence à travers une lentille pluridisciplinaire. Bonjour Alexandra.
Bonjour, merci de me recevoir.
Ben, c'est un plaisir. Alors pour commencer, la semaine du 9, c'est un événement qui met à l'avant l'innovation et la création actuelle. Comment ce spectacle, Chant 2, Le murmure du vivant, s'inscrit-il dans cette volonté de renouvellement artistique?
Ben, ce spectacle s'est développé dans un programme qui s'appelle le Pôle Relève du Vivier. Mm-hmm. Donc le Vivier soutient la création de la relève pour la musique contemporaine et musique de création. Mm-hmm. Puis le projet, ben, c'est un projet profondément pluridisciplinaire dans lequel il y a musique, danse et art visuel. Mm-hmm. Tout ça crée un écosystème complètement interdépendant, en fait.
Donc, c'est le genre de spectacle qu'on voit à la semaine du 9, là?
Ben, je sais pas s'il y en a beaucoup des comme ça à la semaine du 9, mais il y a celui-là, en tout cas.
C'est souvent des spectacles qui sont des nouveaux spectacles, des nouvelles explorations, si je comprends.
Oui.
Tout à fait. Alors, parlons de ce parcours qui est le tien, qui est marqué par une double expertise en musique et en sciences. Là, on vient de comprendre pourquoi on parle de biologie, si je comprends bien.
Science humaine.
Science humaine.
Philosophie.
OK, philosophie. Ouais, j'avais mal lu. Est-ce que le projet, donc, est né de ce désir de réconcilier ces deux univers qui, parfois, on dit que c'est opposé, hein?
Ma foi, toute ma démarche est fondée sur ces deux éléments, c'est-à-dire le soutien théorique, mm-hmm, et l'exploration sensible que permet l'art, en fait. Je suis convaincue que l'art est une science. C'est le lieu d'une connaissance, de même que, mettons, la neuroscience s'intéresse ou nous éclaire sur un sujet très précis, la biologie, la géographie, l'art aussi. L'art a son sujet, qui est en l'occurrence l'humain et le sens de l'existence. Et donc, c'est le lieu où on peut avoir accès à ces réflexions-là et à cette connaissance-là. Pour moi, c'est une science humaine.
J'ai l'impression que c'est un travail de longue haleine, ce spectacle.
50 travail.
50 travail, hein.
Puis pour moi, c'est un très, très gros accomplissement aussi d'une vingtaine d'années de recherche plus global, ouais. J'ai l'impression de concentrer vraiment le fruit de 20 ans de recherche.
Donc, c'est vraiment ton bébé là, qui...
Ouais.
Oui, hein, c'est ouais. Le cas de dire. Ouais.
Ouais.
Alors, qu'est-ce que Murmure, c'est dans le titre, mm-hmm. Murmure représente quoi concrètement là, dans ce processus de composition?
C'est ça. Moi, toute ma démarche est vraiment nourrie par cette question de l'existence. Quel est le sens de notre existence humaine? Quel est le rôle de l'humain dans l'écosystème du vivant? Donc, chaque spectacle, en fait, part toujours d'un propos, donc une porte d'entrée différente. Celui-là, en l'occurrence, c'est le silence. Je me suis intéressée à la question du silence. Je suis partie du constat que quand on dit silence, spontanément, on associe ça à absence de son.
Mm-hmm.
Sauf qu'en réalité, il n'y a absolument rien de tel dans la vie. À partir du moment où il y a du vivant, il y a du mouvement, donc il y a du son. Donc, ce que ça nous amène à constater, c'est qu'en fait, le silence, c'est une posture, c'est un état de présence. C'est une capacité à prêter attention à écouter, en fait, plus largement que notre écoute quotidienne, qui va souvent très vite, qui est souvent très conceptuelle aussi. On met des concepts sur les choses qu'on perçoit, puis ça s'arrête là. Donc, toute l'expérience qu'on propose, c'est comment arriver à écouter autrement pour peut-être penser autrement, pour sortir, dans le fond, du champ assez restreint de nos perceptions habituelles.
Bon, je sais que c'est un travail de 20 ans de création, hein, tout et partout, mais il me semble que je t'entends et je me dis, mais ça s'applique à notre monde actuel, il me semble qu'on aurait besoin de ces moments de silence.
Mais c'est un retour qu'on a beaucoup, on a déjà fait deux représentations, plus une générale publique, puis les gens ressortent vraiment en nous remerciant d'offrir un tel espace, en fait. Ils disent qu'effectivement, c'est très rare dans notre quotidien. Puis ça permet d'accéder à autre chose, ça permet de renouer avec ce sentiment océanique. Puis l'expression n'est pas de moi, mais je trouve ça très beau, ce sentiment océanique de faire partie du vivant, de se rappeler qu'on fait partie d'un tout qui nous dépasse et dont on dépend, mmh. et auquel on a beaucoup de choses à apporter aussi.
Je disais souvent, quand je travaille sur les préparations de plein de trucs comme cette émission, parfois je suis seul à la maison et je me tais. Et parce que quand on ne parle pas, on réfléchit. J'ai l'impression que le silence, ça nous aide à mieux concevoir ou à mieux comprendre des choses.
Oui, puis je pense qu'au-delà de réfléchir, ça permet de penser.
De penser, voilà.
Donc c'est encore plus profond, ouais. C'est vraiment ce moment où le sensible et l'intellect se font un, en fait. Où on a accès à des pensées qui sont bien plus vastes que la réflexion. Oui, absolument.
Puis on fait pas ça souvent à la radio. Hein? Je le dis tout de suite, c'est rare qu'on a des moments de silence parce que tout le monde panique quand il y a un moment de silence à la radio. Mais moi, j'estime que dans ma vie, j'ai besoin de ces moments-là, ne serait-ce que pour penser.
Mm-hmm.
Et est-ce que me poser des questions sur ce que je fais, est-ce que je fais au bon endroit ou pas. Le spectacle est décrit comme une expérience immersive. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par ça?
C'est une expérience immersive par plusieurs aspects. D'abord, parce que le public est avec nous dans l'espace. Il n'y a pas de distinction entre la scène et la salle. Immersif aussi parce que tout le monde est dans le son et dans l'expérience physique. C'est donc un spectacle dans lequel il y a notamment 4 danseuses. Donc, il y a vraiment comme une posture physique très particulière qui fait que par neurones miroirs, par sympathie, le corps est impliqué, le corps des spectateurs est impliqué. On n'est pas là juste comme un spectateur de quelque chose qui se passe devant nous, mais on est vraiment sollicité de façon sensible, en fait, à vivre une expérience, à sortir transformé, en fait.
On dit aussi qu'il y a une dimension très... Là, parce que je me fie, j'ai pas vu le spectacle, je me fie à ce que j'ai lu sur les communiqués et les descriptions. J'ai lu donc qu'il y a une dimension très philosophique dans le travail sur la voix. Comment est-ce qu'on aborde ça, le rendre audible, l'invisible, l'infiniment petit à travers, donc le chant, je comprends bien.
Le chant, la voix, c'est mon instrument principal, c'est ma grande obsession. Je pense que c'est le lieu le plus transparent de ce qu'est l'être humain. Il y a absolument toutes les dimensions humaines dans la voix. C'est à la fois physique, très anatomique, énergétique, émotionnel, politique, parce qu'il y a aussi le discours, l'intellect. Et il y a le mystère aussi dans la voix. Donc, il y a aussi la dimension spirituelle et métaphysique qui, pour moi, est fondamentale. Donc, explorer l'infiniment petit, l'infiniment grand, mais c'est tout un travail de microtonalité, par exemple, d'aller chercher des sons que l'oreille occidentale n'est pas habituée d'entendre. Mettons, l'oreille occidentale est plus habituée, si on regarde un piano, à des écarts de notes entre le plus petit, c'est la note noire avec la note blanche, un demi-ton. Mm-hmm. Puis dans d'autres cultures, bah, dans ce demi-ton, il peut y avoir jusqu'à 12 notes, peut-être même davantage. Donc c'est aller chercher ces toutes petites subtilités-là, puis oser aussi le très grand, le fortissimo, voyager du pianissimo au fortissimo, avec toutes les nuances qui se passent entre les deux. Puis moi, mon bagage est teinté de beaucoup d'influences. J'ai commencé en chant classique occidental, ensuite flamenco, ensuite chant classique indien. Puis j'ai une passion pour l'improvisation qui me permet de mélanger tout ça. Donc c'est vraiment transversal, c'est sans frontières là.
Flamenco, alors comment on l'utilise sur scène? Parce que je crois que c'est dans le spectacle là.
C'est ce qu'il y a le moins dans le spectacle, contrairement au spectacle précédent.
Oui.
Mais ça m'habite, ça a été des années pour moi d'immersion. Le flamenco fait que ça continue à être très présent. Je pense que le flamenco, ce que ça m'a beaucoup apporté, c'est l'utilisation d'une voix proche du cri ou de la voix parlée, en tout cas. Puis une certaine, pas rudesse, mais une authenticité peut-être dans la voix. Qui contrastait beaucoup avec mon bagage de chant classique occidental d'avant, en fait.
J'ai l'impression que les gens qui vont aller voir ce spectacle vont sortir, est-ce que je pourrais dire remuer, peut-être?
Oui, je pense que c'est ça qu'on constate, mais remuer dans le bon sens.
Dans le bon sens, oui. Remuer, ça peut être bon. Hein,
absolument.
Parce que quand on fait de la cuisine, il faut remuer.
Absolument.
Et c'est une bonne chose.
Oui, oui. Oui, les gens sortent transformés. Oui. Il y en a qui disent que ça les a considérablement apaisés, d'autres que ça leur a donné de l'espoir. Il y en a qui nous ont parlé de soins, de médecine aussi.
Ah oui.
À quel point il y avait tellement de soins dans le spectacle qu'ils avaient vraiment ressenti qu'il y avait des choses qui avaient bougé à l'intérieur d'eux, qui s'étaient comme replacées. C'est très puissant comme expérience, c'est vraiment magnifique les retours qu'on reçoit. C'est confrontant au début, c'est sûr. On n'est pas habitué à la lenteur et au silence, donc les premières minutes peuvent être très déroutantes. Mais ce que les gens disent, c'est que même s'ils sont déroutés au début, il y a quelque chose qui finit par lâcher, puis ça devient confortable. Et c'est un très beau voyage collectif.
Ah, l'art qui ne dérange pas, ce n'est pas aussi intéressant que l'art qui dérange. Rappelons, c'est quelle date les représentations de ce spectacle en particulier?
Alors, il en reste une le 3 mars.
Le 3 mars,
donc demain. À 19h,
oui.
À l'église Saint-Hilda dans Rosemont, le QG du Vivier. Tout est affiché complet depuis plusieurs semaines, mais il y a toujours
c'est
des petits désistements.
Ouais,
absolument, ça vaut la peine.
On attend, tout à fait. Et la semaine du 9, donc, c'est un festival de musique et de création fondé par Le Vivier à Montréal. Et donc, c'est en cours présentement. Alors, Alexandra Templier, merci beaucoup.
Merci à vous de m'avoir reçu.
Merci. Thank you. entend présentement l'impromptu Opus 90 qui est de Schubert, et c'est une pièce, une des pièces qui sera présentée dans un spectacle demain à la salle Bourgie. On reçoit alors le pianiste néerlandais Ronald Brautigam qui nous transportera donc dans l'intimité de Franz Schubert grâce à un instrument tout à fait particulier. Puis pour en parler, donc, on reçoit Olivier Godin. Pardon, je suis désolé, je déparle depuis tantôt. Olivier Godin, directeur artistique de la salle Bourget, pour discuter donc de la venue de ce monument du clavier. Olivier Godin, bienvenue à l'émission.
Merci beaucoup. Bonjour.
Bonjour. Parlez-nous donc de Ronald Brautigam. C'est une figure incontournable, hein, si je crois bien, de la scène internationale.
Oui, Ronald Brautigam, c'est un pianiste et un pianofortiste. Donc, il joue du piano moderne et du pianoforte ancien, ce qui est assez rare dans le milieu musical. Il n'y en a pas beaucoup qui font les deux. Et je dirais aussi, bon, c'est un musicien qui a plus besoin de faire ses preuves. Il joue partout en Europe, en Amérique. Il s'est produit avec de nombreux orchestres, de nombreux grands chefs comme Charles Dutoit, Ricardo Chailly, Van Fischer, tout ça. Mais c'est aussi probablement un des pianistes les plus éclectiques de sa génération, parce qu'il joue des œuvres de l'époque de Haydn, Mozart, Schubert, Beethoven, mais il va jusqu'à Debussy, Ravel, Poulenc, le 20e siècle. Donc, il y a un répertoire immense. Et c'est tout ce qu'il fait, à mon avis, est formidable. Vraiment, c'est quelque chose d'assez rare.
Mais qu'est-ce qui fait que c'est formidable? Il a une approche particulière?
Son approche est très axée sur le message musical des œuvres et sur la façon de jouer comme on devait probablement entendre à l'époque, particulièrement sur le pianoforte. C'est merveilleux d'avoir des instruments anciens comme ça, puis des gens qui en jouent, parce qu'on peut entendre des œuvres avec les mêmes sonorités que Beethoven entendait, que Mozart entendait, parce qu'évidemment, le piano a tellement évolué depuis cette époque-là. Quand on rejoue sur des instruments de cette époque-là, c'est pas du tout la même sonorité, c'est pas du tout la même façon d'approcher le clavier, d'approcher la musique. Et Ronald Brautigam fait vraiment ce travail-là en profondeur. Donc, on a toujours l'impression d'avoir quelque chose d'historique quand on l'écoute.
Alors, permettez-moi, si je pense que c'est le temps de poser la question, qu'est-ce qu'un pianoforte?
Alors, un pianoforte, c'est une très bonne question. C'est l'ancêtre du piano, en fait. C'est ce qui a suivi le clavecin, donc à la fin du 18e siècle, vers le milieu fin du 18e siècle, le clavecin a peu à peu été remplacé ou supplanté, si on veut, par le pianoforte, qui était le premier instrument où les cordes étaient frappées et non pincées. Le clavecin, les cordes étaient pincées par des petits plectres, des petits sautereaux, et le piano donc est devenu, avec les marteaux, c'est devenu un instrument un peu révolutionnaire qui a changé complètement la façon d'écrire de la musique pour le clavier. Et éventuellement, ce pianoforte-là est devenu un piano moderne. Mais le pianoforte, donc, c'est un instrument qui est beaucoup plus petit, le clavier est plus court aussi, il y a moins de notes qu'un piano moderne. Ça dépend des instruments. Là, on n'a pas, il n'y a pas un nombre de touches tout à fait standard comme aujourd'hui. On en a 88, donc ça peut aller de 70 à 80 à peu près. Et ce sont des instruments donc qui sont beaucoup plus petits, un petit peu plus fragiles aussi, je dirais, au niveau de la facture. Ils sont tout en bois. C'est pas des instruments où il y avait un cadre en métal comme dans les grands piano moderne, ce qui fait que le son est beaucoup plus fin, beaucoup plus détaillé. On peut faire vraiment des nuances très particulières. Puis il y a des pédales aussi sur ces pianos-là qu'on appelle des modérateurs qui permettent d'obtenir des différents sons. Il y a un feutre qui se met entre la corde et le marteau pour jouer très doux, très feutré, très délicat. Donc on a toutes sortes de palettes qui sont disparu avec le temps, mais qui était très particulière à cette époque-là. Et à la salle Bourget, ben on a une collection d'instruments historiques. Donc, on a des pianofortés, on a des pianos un petit peu plus tardifs, de 1859, on a des clavecins, on a des pianos modernes aussi. Donc, là, pour le cas de Schubert, M. Brautigam va jouer sur un piano, une copie moderne d'un piano des années 1820 environ, donc parfaitement adapté, parce que les impromptus de Schubert datent de 1827. C'est probablement sur un instrument comme celui-là que Schubert aura composé ces œuvres-là.
Qu'est-ce qui fait qu'on entend... Parce qu'on connaît le clavecin, ça arrive souvent d'avoir des clavecins lorsqu'on va voir des concerts, mais le pianoforte, j'avoue, là, c'est une des rares fois que j'en entends parler.
Ben, on en entend parler de plus en plus parce qu'il y a toute cette recherche d'historicité au niveau musical de rejouer sur des instruments anciens. On l'a fait beaucoup dans les années 70-80 sur le clavecin, les instruments baroques, l'époque ancienne de Bach, de Vivaldi et tout ça. Et là, tranquillement, on remonte dans le temps, on avance un petit peu dans le temps. Là, on est encore plus plus en profondeur dans la période classique, le début de l'époque romantique aussi. Et de plus en plus, on joue ce répertoire-là sur les instruments de cette époque-là. Il faut dire que le piano forte a quand même eu une longévité, là, je dirais, la fin du 18e siècle, jusque dans les années 1850, où le facteur de piano français Erard a inventé le piano moderne, ce qu'on peut dire, là, plutôt plus vers à partir des années 1850 et jusqu'à la fin du 19e siècle. Là, le piano moderne a eu son heure de gloire et a supplanté le piano forte. Mais ça a été quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de grands compositeurs avaient ces pianos-là. On pense à Beethoven, on parle à Schubert. Même Chopin, dans ses jeunes années, c'était des pianos fortés comme celui qu'on va entendre demain. Schumann, Mendelssohn ont commencé à composer pour le clavier. C'était des instruments comme celui qu'on a à la salle Bourget, là, qui couvre les années 1820 à 1840 environ. Le piano forte, c'est évidemment, a évolué à une vitesse incroyable parce que en 100 ans, on est passé d'un clavecin à un piano moderne. C'est extraordinaire le chemin que ça a fait au niveau artistique, au niveau musical. Et c'est aussi important de voir que c'est l'invention de ces instruments-là qui a fait avancer la composition. Parce que, par exemple, Beethoven, au début de sa carrière, ne pouvait pas écrire des œuvres comme il écrivait, aussi puissantes qu'il écrivait à la fin de sa vie, parce que les pianos ne pouvaient pas le prendre. Les pianos n'étaient pas conçus pour composer, pour écrire ou pour jouer de la musique aussi dense que les dernières sonates de Beethoven. Et quand le piano forte a évolué, bien, Beethoven était très, très heureux parce qu'il pouvait justement avoir un instrument qui pouvait prendre la force, puis la puissance et l'étendue de ces grandes dernières œuvres.
J'aimerais vous emmener sur le programme de demain, justement, qui est centré sur ces célèbres impromptus de Schubert. Pourquoi ces pièces-là occupent toujours une place aussi spéciale dans le cœur des mélomanes?
Je pense que ça fait partie des grandes œuvres de Schubert. Schubert, faut penser d'abord à une chose, il est mort très jeune, il est né en 1797, il est mort en 1828. Il a écrit à peu près 2000 œuvres entre l'âge de 15 ans et l'âge de 31 ans. Ça veut dire qu'en 16 ans, il avait tout écrit son œuvre, ce qui est assez effarant pour un compositeur, une seule personne. Les impromptus ont été écrits à la toute fin de sa vie, près moins d'un an avant sa mort. Il venait de finir d'écrire le grand cycle pour chant et piano, Le Voyage d'hiver, qui est une œuvre très sombre et très intérieure. Et tout à coup, ces 8 impromptus-là ont apparu comme un petit rayon de soleil après quelque chose de très sombre. Et je pense que c'est justement cette simplicité-là, cette beauté, cette richesse mélodique aussi. C'est des œuvres qu'on peut fredonner facilement sous la douche ou dans la rue. Et c'est justement cette beauté-là d'écriture mélodique et de simplicité après toutes ces grandes œuvres tourmentées qui nous arrivent comme un rayon de soleil. Je pense que c'est ça qui fait de ces œuvres des incontournables du répertoire. Et aussi, c'est des œuvres qui sont extrêmement agréables et satisfaisantes à jouer pour les pianistes.
Et pour Ronald Brettingham, lui, c'est important aussi. Je pense que c'est quelqu'un qui tient beaucoup les œuvres de Schubert à cœur.
Absolument. C'est un grand défenseur de la musique de Schubert. Moi aussi, j'en suis un, je dois dire, parce qu'à la salle Bourget, depuis notre arrivée à Caroline Louis et moi, comme à la direction, comme directeur artistique et directrice générale, on a décidé de commencer à faire l'intégrale des Lieder de Schubert. Donc, c'est toutes les mélodies pour voix et piano de Schubert. Il y en a plus de 600. On fait ça sur plusieurs saisons. Et autour de ce grand cycle-là, ben justement, on présente des œuvres instrumentales, des impromptus, des sonates, des quatuors à cordes, pour vraiment illustrer cette grande vision que Schubert avait de la musique, cette grande vision extrêmement vaste et extrêmement expressive de la musique. Et puis, c'est vraiment un projet qu'on va faire traverser l'année 2028, qui va être le 200e anniversaire de la mort de Schubert. On va aller au-delà de ça, mais c'est vraiment un compositeur qui est à l'honneur ces années-ci à la Salle Bourget.
Alors, Olivier Godin, merci beaucoup. Rendez-vous donc demain 3 mars pour ce concert. Et je rappelle donc Ronald Brettingham et va y faire résonner l'âme de Schubert sur cet instrument d'exception, le piano forte. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci. Alors, je vous rappelle qu'il va faire encore froid aujourd'hui, peut-être demain aussi, là, pour ceux qui sont abonnés à ILO d'Hydro-Québec. Vous avez un défi demain matin, Charles, pour ne pas trop dépenser d'énergie. Je m'appelle Denis Martin Chabot. Je remercie notre collègue Mathieu Tessier à la mise en onde aujourd'hui et Hélène Denis, qui est absente cette semaine, que je remplace, mais qui m'a aidé à la recherche. Et puis moi, je vous donne rendez-vous à 17h, toujours à Canalem, pour l'émission L'heure où l'arc-en-ciel se lève. Merci beaucoup d'avoir été là et à demain.